Le mouvement ouvrier contre la préférence nationale, entre guillemets, France 1870-1914. L'exposé ci-dessous a été présenté le 9 juin dernier à la fête de lutte ouvrière à Presles. Il est aujourd'hui fréquent d'entendre dans la bouche de Le Pen et des politiciens du Rassemblement national, RN entre parenthèses, que, dans cette période de chômage, le travail doit être prioritairement réservé aux Français. Et de nombreux politiciens reprennent cette démagogie xénophobe qui vise à diviser les travailleurs entre eux. Celle-ci n'a rien de nouveau, comme en témoigne l'extrait suivant, ouvrez les guillemets. L'ouvrier français paye sa cote personnelle et mobilière. C'est lui qui, par son travail, paye les employés de la ville et entretient la localité, sur bien des rapports. Eh bien, ces travailleurs manquent aujourd'hui de travail, et l'ouvrier étranger travaille fêtes et dimanches, quand le travailleur français ne peut pas seulement travailler les jours de la semaine. Nous avons remarqué que dans de tous les travaux de la ville, l'on n'occupe pas un seul ouvrier français. Mais en revanche, l'étranger travaille, et le salaire qu'il gagne en France, il le porte chez lui. Fermez les guillemets. Ces mots sont extraits d'une pétition de toutes les chambres syndicales des ouvriers du bâtiment de Lyon en 1885, demandant au maire de réserver des chantiers de la ville aux ouvriers français et ciblant les Italiens, pourtant loin d'être majoritaires sur les chantiers lyonnais. De telles revendications n'étaient malheureusement pas limitées à la région lyonnaise. À partir de 1881, les chambres syndicales prirent de plus en plus l'initiative de démarches auprès des pouvoirs publics pour que les travaux des communes et de l'État soient réservés aux ouvriers français et que, dans certaines branches d'activité, le nombre d'étrangers soit limité. Cet article évoque la façon dont cette question de ce qu'on appelle aujourd'hui la « préférence nationale » entre guillemets se posa aux militants ouvriers entre 1870 et 1914 et comment ils y répondirent. Les réactions de rejet contre ceux que les travailleurs français considéraient parfois comme des concurrents n'étaient pas nouvelles. Dès la Restauration et la Monarchie de Juillet, puis lors des crises de 1847-1848, il y eut des incidents avec des travailleurs belges, allemands et britanniques. Mais les heurts entre ouvriers stéphanois, lyonnais, parisiens et les migrants auvergnats, ardéchois, creusois ou bretons étaient tout aussi fréquents. Car le capitalisme industriel a mis les travailleurs en concurrence. Ce que veut le patronat, ce sont des prolétaires vendant leur force de travail individuellement au moindre coût, et il utilise pour cela toute source de division entre hommes, femmes et enfants. Mais, dans les deux dernières décennies du XIXe siècle, les réactions contre les étrangers, entre guillemets, prirent une toute autre ampleur. Outre les pétitions déjà évoquées, il y aurait eu 250 incidents xénophobes entre 1880 et 1914. Note de bas de page. Laurent Dornel, La France hostile, socio-histoire de la xénophobie, 1870-1914, entre parenthèses, Hachette, 2004. Et Michel Perrault, ouvrez les guillemets, Les rapports entre ouvriers français et étrangers, ouvrez la parenthèse, 1871-1893, fermez la parenthèse, fermez les guillemets, Bulletin de la Société d'Histoire Moderne, 1960, numéro 12. Fin de la note de bas de page. Donc, dans les deux dernières décennies du XIXe siècle, les réactions contre les étrangers, entre guillemets, prirent une toute autre ampleur. Outre les pétitions déjà évoquées, il y aurait eu 250 incidents xénophobes entre 1880 et 1914. Par incident, il faut entendre aussi bien des grèves que des rixes et des manifestations de rue pour chasser Belges ou Italiens, et parfois de véritables pogroms, comme au Salin du Midi à Aigues-Mortes dans le Gard, où au moins 8 travailleurs italiens furent tués et des dizaines d'autres grièvement blessés, lors d'une chasse à l'homme les 17 et 18 août 1893. Dans les années 1870, seule une vingtaine de rixes avaient donné lieu à enquêtes judiciaires. En revanche, leur nombre s'élève à une soixantaine dans les années 1880 et une centaine dans les années 1890. Alors qu'en 1851, la France ne comptait que 379 289 étrangers, ouvrez la parenthèse, 1% de la population, fermez la parenthèse, leur nombre dépasse le million en cette fin du XIXe. En 1911, ils sont 1 159 835, soit 2,86% de la population. En effet, la France, dès ses premières phases d'industrialisation, eut besoin de l'immigration. La première raison en est la stagnation démographique. La seconde est que la France est alors, et restera longtemps, un pays largement rural où la petite paysannerie n'a pas été brutalement expulsée de sa terre comme en Grande-Bretagne. Les manufactures y sont encore très dispersées et très liées à la ruralité. Dans les écrits du XIXe siècle, les témoignages abondent d'industriels se lamentant sur l'absentéisme des ouvriers paysans au moment des travaux agricoles. Une période de dépression et de mutations économiques. L'économie française n'échappa pas au marasme économique qui touchait le monde capitaliste du milieu des années 1870 jusqu'à celui des années 1890. En France, entre 1883 et 1887, un mineur sur quatre fut renvoyé, ainsi qu'un ouvrier sur cinq dans la grosse métallurgie et un sur trois dans le bâtiment. Les industries textiles et métallurgiques furent très touchées et subirent une profonde transformation dans cette crise qui poussa à leur concentration et à leur modernisation. L'exemple de la sidérurgie, ouvrez la parenthèse, production de fonte, fer, acier, fermez la parenthèse, est parlant. En 1864, plus de 1000 établissements se consacraient à cette activité. Il n'y en avait plus que 208 en 1912. Mais la production avait été multipliée par 4. Note de bas de page. Gérard Noiriel, Immigrés et prolétaires, Longwy, 1880-1980. Agone, 2019, 1984, entre parenthèses, fin de la note de bas de page. Donc, l'exemple de la sidérurgie, production de fonte, fer, acier, est parlant. En 1864, plus de 1000 établissements se consacraient à cette activité. Il n'y en avait plus que 208 en 1912, mais la production avait été multipliée par 4. Et c'est seulement au tournant du siècle que se fit le grand bond en avant de l'industrie, qui connut alors en France une croissance des deux tiers, entre 1898 et 1913, créant 1,6 million d'emplois industriels en 10 ans. De la question sociale à la question nationale. La Troisième République est née en 1875, à la fois de la défaite de 1870 devant l'Allemagne, et de la grande peur de la Commune de 1871. La République bourgeoise devait consolider son pouvoir et donc homogénéiser le pays, le souder autour des valeurs de la République, entre guillemets, le drapeau tricolore, la Marseillaise, et en particulier faire disparaître la lutte des classes derrière l'idée de nation. Jusqu'aux années 1870, pour la majeure partie de la population, l'étranger, entre guillemets, c'était celui qui n'était pas de la ville ou du village. Dans les classes dominantes, c'est la haine de classe qui prévalait. L'homme politique et journaliste Saint-Marc Girardin écrivait ainsi dans le Journal des débats, après la révolte des canuts lyonnais de 1831, ouvrez les guillemets, « Les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase, ni dans les steppes de la Tartarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. » Fermez les guillemets. Au moment même où la généralisation des écoles publiques permettait de former des générations aux valeurs patriotiques, entre guillemets, la Troisième République élaborait une multitude de textes pour définir qui est français et qui ne l'est pas, et s'appliquait à établir une frontière au sein même de la population laborieuse. On ne retient aujourd'hui de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels que les libertés syndicales, entre guillemets. Mais en fait, ce fut le premier texte établissant une discrimination entre travailleurs français et étrangers, puisqu'il stipule que, ouvrez les guillemets, les membres de tout syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat devront être français et jouir de leurs droits civiques, fermez les guillemets. Sans citer tous les autres textes législatifs ou réglementaires, signalons la loi du 26 juin 1889 créant le premier code de la nationalité, entre guillemets. Ouvrez la parenthèse, c'est d'ailleurs la première fois que ce mot figure dans une loi, fermez la parenthèse. Puis celle du 8 août 1893, ouvrez la parenthèse, complétant un décret similaire de 1888, fermez la parenthèse, dite 2, ouvrez les guillemets, protection du travail national, fermez les guillemets, relative au séjour des étrangers en France. Elle leur imposait une déclaration de résidence dans les 8 jours suivant leur arrivée et tout changement de résidence ultérieur. Enfin, en 1899, les décrets Millerand ouvrirent la voie à toute une série de textes destinés à restreindre l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère dans les travaux d'intérêt public. Cet arsenal juridique visait à persuader l'ouvrier français que, pour autant qu'il est dans la misère, subit le chômage, la surexploitation à la mine ou à l'usine, et en plus est astreint à un long service militaire obligatoire, malgré tout, ouvrez les guillemets, la République s'occupe de lui, fermez les guillemets. D'autant plus que lui, car les femmes en sont exclues, a le droit de vote. Tout ce climat nationaliste, patriotard et revanchard fut développé et institutionnalisé par les politiciens bourgeois de la Troisième République et largement relayé par la presse qui, en cette fin du XIXe siècle, avait pris un essor et une importance considérables. Le mouvement ouvrier face aux divisions entre travailleurs. En 1864, l'adresse inaugurale rédigée par Karl Marx pour l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, commence ainsi. Ouvrez les guillemets. Considérant que l'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Un petit point entre crochets. Que tous les efforts tendant à ce but ont jusqu'ici échoué, faute de solidarité entre les travailleurs des différentes professions dans le même pays et d'une union fraternelle entre les classes ouvrières des divers pays, que le mouvement qui vient de renaître parmi les ouvriers des pays industriels avancés de l'Europe, donne un solennel avertissement de ne pas retomber dans les vieilles erreurs et de combiner le plus tôt possible les efforts encore isolés. Fermez les guillemets. Très tôt, le mouvement ouvrier organisé et conscient s'était donc donné un programme répondant à ses intérêts de classe. Mais en 1871, la répression de la Commune de Paris opéra une profonde saignée en France, dans toute une génération. Peut-être 20 000 tués, 13 000 condamnations par les conseils de guerre, 7 500 déportés. Et, comme si cela ne suffisait pas à la bourgeoisie, la loi Dufort de 1872 criminalisa l'appartenance à l'international. Aussi, quand le mouvement ouvrier se reconstitua, ce fut d'abord principalement sur des bases corporatives, oscillant entre prévoyance et résistance, mutualité, mais aussi association politique. Ainsi, les ouvriers du bâtiment de Lyon créèrent, dès 1872, une société de prévoyance et de renseignement des ouvriers maçons. Leur demande d'autorisation en préfecture déclare, ouvrez les guillemets, « faciliter le progrès, l'instruction et le développement de la corporation des maçons », fermez les guillemets. Note de bas de page, Jean-Luc de Ochandiano, Lyon, Un chantier limousin, les maçons migrants, 1840-1940, édition lieu-dit 2011. Fin de la note de bas de page. Donc, les ouvriers du bâtiment de Lyon créèrent dès 1872 une société de prévoyance et de renseignement des ouvriers maçons. Leur demande d'autorisation en préfecture déclare, ouvrez les guillemets, « faciliter le progrès, l'instruction et le développement de la corporation des maçons ». Fermez les guillemets. Cette société ne sera qu'une première étape. En 1876, les plâtriers peintres fondent une chambre syndicale, suivie en 1877 par les maçons. Ces chambres seront à l'initiative des grèves pour l'augmentation des salaires de 1877-1880. Dans les statuts de ces organisations, aucune distinction n'est alors faite entre nationalités. Plusieurs piémontais, ouvrez la parenthèse, nombreux depuis longtemps, surtout chez les plâtriers, fermez la parenthèse, sont élus dans les commissions de grève, entre guillemets, ces années-là. Un tournant se produisit au cours des années 1880 avec la montée du chômage et la poussée nationaliste évoquée, amplifiée par le mouvement boulangiste, ouvrez la parenthèse, qu'on qualifierait aujourd'hui de national-populiste, fermez la parenthèse, qui fit de la « protection du travail national » entre guillemets un de ses thèmes favoris. Des socialistes, des syndicalistes et une partie des classes populaires y furent sensibles. En 1885, la Chambre syndicale des plâtriers peintres entraîna celle de toutes les autres corporations du bâtiment pour lancer la pétition citée dans l'introduction. Dans les années suivantes, elle ira encore plus loin en refusant les étrangers. Mais en 1889, sous l'impulsion de plâtriers anarchistes, se crée un syndicat cosmopolite des plâtriers peintres, défendant l'idée qu'il ne faut pas se diviser entre travailleurs, que c'est aux patrons qu'il faut s'en prendre pour leur imposer un tarif entre guillemets unique de la profession, quelle que soit l'entreprise. Cette organisation se battra pour faire accepter les étrangers dans les syndicats. Sous sa pression, l'ensemble de la corporation se réunifiera en 1893 dans une nouvelle structure ouverte à tous, que même la vague anti-italienne qui suivit l'assassinat du président Salicarno par l'anarchiste italien Caserio en 1894 ne fera pas éclater. L'évolution fut similaire chez les maçons. Leur forte cohésion sera d'ailleurs un gage de succès dans la longue grève des maçons lyonnais en 1897 qui imposa l'augmentation du tarif entre guillemets après 20 ans de stagnation. Dans cette période, le mouvement ouvrier se reconstitua, non sans difficulté. Des syndicats de différentes corporations se regroupèrent dans une Fédération nationale des syndicats, FNS entre parenthèses, en 1886. Celle-ci était dirigée par des militants socialistes révolutionnaires dont une majorité se réclamait du marxisme et était au parti ouvrier de Jules Guesde et Paul Lafargue. Dans plusieurs congrès de la FNS, la lutte fut rude entre ceux qui défendaient l'internationalisme et le drapeau rouge et ceux qui cédaient au nationalisme. Face aux revendications de limitation de la main-d'œuvre étrangère, les militants « collectivistes » entre guillemets disent, comme le cordonnier Stéphane Le Tang de Montluçon, au congrès de Bordeaux de 1888, ouvrez les guillemets. Ce que l'on doit faire, c'est empêcher que les patrons payent les ouvriers étrangers à un prix moindre. Fermez les guillemets. En parallèle, apparut le mouvement des bourses du travail et des maisons du peuple, qui devinrent très vite, sous l'impulsion notamment de Fernand Peloutier, des foyers d'organisation, d'éducation et de propagande révolutionnaire. Elles furent une avancée majeure pour forger la conscience d'appartenir, au-delà des divisions corporatistes et nationalistes, à une même classe ouvrière, aux intérêts communs. Dans le même temps, le mouvement socialiste avait réussi à s'implanter parmi la classe ouvrière, notamment dans le Nord. Mais il était très divisé en différentes tendances. La plus conséquente, se réclamant du marxisme, avait créé le Parti ouvrier en 1882. Une autre, importante, faisait référence au blanquisme. D'autres encore étaient influencés par des conceptions anarchisantes ou communalistes. Beaucoup avaient des conceptions très confuses sur la manière d'abattre le capitalisme, ce qui laissait la porte ouverte à l'opportunisme électoraliste. Même le parti de Guesde témoigna d'importantes faiblesses politiques, surtout lorsqu'il obtint des succès électoraux. Ainsi, en 1893, le Parti ouvrier se rebaptisa « Parti ouvrier français » pour ne pas être taxé d'antipatriotisme. Et le manifeste du POF stipulait en 1893, ouvrez les guillemets, « L'internationalisme n'est ni l'abaissement, ni le sacrifice de la patrie. » Fermez les guillemets. La bataille pour faire avancer les consciences ouvrières. Pour illustrer la bataille des militants pour faire progresser la conscience de classe, allons dans le département des Ardennes au tournant du siècle. Comme dans le Nord et le Pas-de-Calais, les travailleurs belges y sont nombreux, même si c'est en moindre proportion. Ils s'intègrent vite dans le mouvement ouvrier ardennais et beaucoup deviennent des militants actifs dans les diverses chambres syndicales, cercles d'études sociales, coopératives qui composent la Fédération socialiste des Ardennes. Et cela, d'autant plus facilement qu'en Belgique, le mouvement socialiste et l'organisation en syndicats sont plus avancés qu'en France. Et c'est un des éléments majeurs de l'époque. Les militants français peuvent s'inspirer, s'appuyer sur le mouvement socialiste des pays voisins. C'est ce qui permit la création de la Deuxième Internationale en 1889. Une figure parmi tant d'autres, Léon Trochet, né en 1872 dans la province du Luxembourg, couvreur de métier, participe en 1887 à la fondation de la Chambre syndicale des ouvriers du bâtiment de Charleville. Ouvrez la parenthèse, ce qui vaut adhésion automatique à la Fédération socialiste. Fermez la parenthèse. Note de bas de page, Daniel Bigorne, ouvrez les guillemets, main-d'œuvre étrangère et mouvement ouvrier au XIXe siècle, l'exemple des Belges dans les Ardennes frontalières, fermez les guillemets. Le mouvement social, numéro 178, 1997/1, pages 11 à 26. Fin de la note de bas de page. Donc, une figure parmi tant d'autres. Léon Trochet, né en 1872 dans la province de Luxembourg, couvreur de métier, participe en 1887 à la fondation de la Chambre syndicale des ouvriers du bâtiment de Charleville, ouvrez la parenthèse, ce qui vaut adhésion automatique à la Fédération socialiste, fermez la parenthèse. En 1891, il adhère au Cercle d'études sociales et en devient vite le secrétaire influent. Il était un fervent internationaliste et se distingua par sa propagande antimilitariste et anticolonialiste. Son action le fit expulser de France, mais il continua à collaborer étroitement avec ses camarades français. Nombreux sont les travailleurs belges à participer aux grèves, ce qui leur vaut d'être chassés du territoire français. Alors, d'où vint l'accusation, si courante à cette époque, contre les Belges, d'être des briseurs de grève et des réfractaires au syndicalisme? Dans les Ardennes, cela s'adressait surtout aux frontaliers, qui résident de l'autre côté de la frontière et la passent tous les jours. Par leur statut, ils sont beaucoup plus exposés aux pressions patronales et à celles des autorités belges et françaises. Par exemple, lors de la grève de 1904 à Fromelen, à la Compagnie française des métaux, il y a 350 frontaliers belges sur les 700 grévistes. Intimidés par les pressions de la police belge et du patron, ils veulent reprendre le travail. Malgré la protection des gendarmes français et de deux compagnies d'infanterie, ils n'osent pas franchir la frontière devant les attroupements hostiles qui barrent le passage, drapeaux français déployés et au son de la Marseillaise. De tels incidents pouvaient dégénérer très vite et évidemment étaient largement exploitées par les nationalistes de tout poil. Ce fut le cas en 1892, dans le département du Pas-de-Calais, où les manifestations anti-belges furent encore plus violentes à l'arrivée de 600 mineurs du Borinage. Ce sont eux qui furent particulièrement visés, mais peu les nombreux travailleurs belges installés depuis des années dans la région. En fait, il semble avéré que la compagnie minière de Liévin avait envoyé sur place dans le Borinage, ouvrez la parenthèse, alors en crise de surproduction, fermez la parenthèse, des agents recruteurs, dans le temps même où des dizaines de mineurs syndiqués étaient renvoyés, car le rapide développement d'un puissant syndicat inquiétait les compagnies. Là aussi, on le voit, les choses n'étaient pas simples pour les militants internationalistes. Pour ce qui est des Ardennes, il y avait bien sûr dans la balance le poids qui représentait la Fédération socialiste, allemaniste entre parenthèses. Note de bas de page, du nom de Jean Alleman, dirigeant d'une tendance socialiste non marxiste, liée au mouvement syndical, fin de la note de bas de page. Donc pour ce qui est des Ardennes, il y avait bien sûr dans la balance le poids qui représentait la Fédération socialiste, allemaniste entre parenthèses, comptant 69 chambres syndicales et cercles d'études sociales, plus de 14 000 adhérents, 16 municipalités, mais surtout des militants éprouvés, convaincus des idées socialistes internationalistes, comme l'était le chansonnier Jean-Baptiste Clément, ouvrez la parenthèse, auteur en particulier du « Temps des cerises » et de « La semaine sanglante », fermez la parenthèse. Le vieux communard consacra sa vie militante à cette région à partir de 1888, y tenant des centaines de réunions et créant des dizaines de chambres syndicales. au plus fort de la crise boulangiste, ouvrez la parenthèse, 1885-1889, fermez la parenthèse, et du courant qui, au Parlement et dans la presse, des radicaux aux conservateurs exige, ouvrez la parenthèse, la protection du travail national, fermez la parenthèse, note bas de page, voir les travaux de Gérard Noiriel, par exemple, ouvrez des guillemets, l'immigration, naissance d'un problème, fermez les guillemets, Agone 40, l'invention de l'immigration, 2008, ou encore Le Creuset français, histoire de l'immigration, 19e-20e siècle, édition du Seuil, 1988, chapitre 5. Fin de la note de bas de page. Donc, au plus fort de la crise boulangiste 1885-1889, entre parenthèses, et du courant qui, au Parlement et dans la presse, des radicaux aux conservateurs exigent, ouvrez les guillemets, la protection du travail national, fermez les guillemets, il dénonce les vrais coupables, que sont les patrons, ouvrez les guillemets, qui embauchent de préférence des ouvriers étrangers qui travaillent à vil prix, fermez les guillemets, réclament, ouvrez les guillemets, l'interdiction pour les employeurs d'occuper des ouvriers étrangers à des conditions autres que les travailleurs français, fermez les guillemets, et invite tous les travailleurs, belges et français, à s'unir et s'organiser dans les mêmes syndicats, ouvrez les guillemets. Tous groupés pour le maintien de vos salaires et l'élaboration de vos règlements d'atelier, aucun d'entre vous, français ou étranger, ne pourra s'embaucher en dehors des conditions fixées par vous. Fermez les guillemets, note de bas de page. Daniel Bigorne, article cité, fin de la note de bas de page. La tâche n'était pas facile. Jean-Baptiste Clément l'exprime ainsi, ouvrez les guillemets. Comment faire ? Si les ouvriers étrangers restent isolés du mouvement corporatif, les voilà traités de renégats par les ouvriers français qui les accusent de venir manger leur pain en France sans avoir aucun devoir à remplir, pas même celui de la solidarité. Petit point entre crochets. Si, ayant conscience de leurs devoirs, ils font partie d'une chambre syndicale, ayant suivi les ordres, les voilà expulsés. Fermez les guillemets. Mais les militants socialistes ne se découragèrent pas. Même si la répression était rude, ils la combattirent. Il n'y avait pas d'autre choix pour ces militants conscients des intérêts de leur classe. En 1895, Jean-Baptiste Clément dénonce ainsi l'expulsion de deux travailleurs, ouvrez les guillemets. L'un et l'autre, établis en France depuis leur naissance, ont donc été reconduits sur ordre du préfet à la frontière belge. Mais là ne s'est pas borné l'acte honteux. Les deux expulsés ont certainement été recommandés à la police belge, sur les dents elle aussi à cause de cet infernal socialisme, car aussitôt qu'ils eurent mis le pied sur le territoire belge, ils furent traqués comme des bêtes dangereuses. Fermez les guillemets. Tous les dirigeants ouvriers n'eurent pas la même attitude que Clément et ses camarades. Ainsi, Émile Bazly ne fit rien pour calmer la hargne anti-belge de 1892 dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Il était pourtant, avec Lamondin, le leader du puissant syndicat des mineurs, député depuis 1885, et jouissait d'un grand prestige. Mais, comme il le dit lui-même, ouvrez les guillemets, socialiste national d'abord, internationaliste dans la mesure du possible, anti-prussien jusqu'à nouvel ordre, fermez les guillemets. Le leader socialiste belge, Édouard Anzele, qui, avec son camarade Van Beveren, avait beaucoup aidé à la diffusion des idées socialistes dans le nord de la France, dira de lui, ouvrez les guillemets. On a crié « Abat les Belges !» Et Bazly n'a rien désapprouvé. Ce n'est pas un socialiste, trois petits points entre crochets. Le cri des ouvriers de tous les pays est celui-ci. Vive l'international ! Fermez les guillemets. Le nationalisme de Bazly, qui allait de pair avec un réformisme de plus en plus avéré, et même une action anti-grève systématique dans la Fédération des mineurs, conduisit celle-ci à la scission de 1903, où, sous le surnom de « jeunes syndicats », les syndicalistes révolutionnaires se regroupèrent. Dans d'autres régions, ce sont souvent les Italiens qui sont concernés. Au tournant du siècle, ils dépassent en nombre les Belges parmi les travailleurs immigrés en France. À Marseille, ville ouvrière où, dès 1851, les Italiens représentent plus de 18% de la population, les exilés socialistes italiens militent aussi bien en direction de leur pays que des immigrés. Une union socialiste italienne de France se constitue en 1899 à La Ciotat. Sa fédération des Bouches-du-Rhône compte alors près d'un millier de membres. Ils multiplient les réunions et incitent leurs compatriotes à rejoindre leurs camarades français dans les syndicats. En 1900, la grève générale victorieuse du port de Marseille vient couronner leurs efforts. Dans sa foulée, un « syndicat international » entre guillemets est fondé. 3200 travailleurs y adhèrent, dont 60% d'étrangers. Même dans les vallées alpines, l'expérience de lutte commune forge des liens entre travailleurs de différentes origines. Au tournant du siècle, les chantiers y sont nombreux, car les usines de l'électrométallurgie y poussent comme des champignons. Aussi bien dans les chantiers que dans l'industrie, les Italiens sont majoritaires et le seront aussi dans les nombreuses grèves qui traversent les premières années du XXe siècle. Ils seront également les principaux responsables dans les comités de grève et souvent à l'origine de la création des syndicats. Un rapport de police signale en 1905 que le syndicat du bâtiment de Moutier en Savoie compte parmi ses 94 membres, 89 Italiens, dont 4 au sein du bureau. Note de bas de page. Michel Etiévan, aux origines du mouvement ouvrier savoyard, Gap, 1989, et Mino Faeta, la vie rêvée des Italiens, un siècle de présence italienne dans les deux Savoies, 1860-1960, édition de l'Astronome 2007, fin de la note de bas de page. Donc, un rapport de police signale en 1905 que le syndicat du bâtiment de Moutier en Savoie compte parmi ses 94 membres 89 Italiens, dont 4 au sein du bureau. La création de la CGT, une étape importante. Une étape importante fut franchie au tournant du siècle avec la création de la CGT. Bien que le congrès fondateur de Limoges en 1895 n'unifia que très partiellement fédération, syndicat de métiers et surtout très peu de bourses du travail, la CGT devint, dans la décennie suivante, le point de ralliement de tous les ouvriers conscients. Ses dirigeants syndicalistes révolutionnaires l'inscrivirent, dès le congrès de Bourges de 1904, dans la lutte internationale pour la journée de 8 heures, voulant l'imposer par l'action des travailleurs à partir du 1er mai 1906. Avec la CGT de l'époque se concrétisent plusieurs décennies d'efforts de militants ouvriers pour unifier la classe ouvrière dans une même organisation, par-delà les différences corporatives, catégorielles ou de nationalité. Et cela, non seulement pour la défense des conditions de salaire et de travail, mais aussi pour, ouvrez les guillemets, l'abolition du salariat et l'expropriation de la classe capitaliste, fermez les guillemets. Bien sûr, à l'échelle de la France, même avec environ 500 000 syndiqués avant 1914, la CGT n'organise qu'une minorité des travailleurs. Mais régionalement, dans certaines corporations, c'est la quasi-totalité des ouvriers qui sont organisés. Comme dans le bâtiment à Lyon, où des délégués de chantier, ouvrez la parenthèse, sans aucun statut légal, mais imposés par le rapport de force au patron, fermez la parenthèse, font la tournée des chantiers pour vérifier les cartes syndicales. Pour ces militants, c'est le moyen de résoudre la mise en concurrence des ouvriers entre eux, qui avait été source de maints affrontements. Car être syndiqué, cela veut dire que l'on n'accepte pas d'être payé en dessous du tarif syndical. Quant au patron, il est tenu d'employer des ouvriers syndiqués, sinon son chantier est mis à l'index. Durant toutes ces années d'avant 1914, les conflits entre ouvriers français et étrangers diminuèrent considérablement, pour s'éteindre quasiment. Cela était dû bien sûr à la conjoncture économique, mais aussi tout autant à l'action des milliers de militants ouvriers qui œuvrèrent quotidiennement, d'arrache-pied, au progrès de l'organisation et de la conscience des travailleurs. Puis arriva 1914, quand la plupart des chefs syndicaux et socialistes trahirent ces années d'efforts en ralliant l'Union sacrée pour la guerre. Le mouvement ouvrier n'en avait pas fini avec le poison nationaliste. Tant que le capitalisme survivra, il aura des effets destructeurs sur le mouvement ouvrier. Et l'histoire nous montre qu'à chaque fois, la fraction la plus consciente du prolétariat a dû mener la bataille. Ce combat permanent et sans cesse à recommencer, Marx et Engels le décrivaient dès 1848 dans le manifeste du Parti communiste. Ouvrez les guillemets. Les ouvriers commencent par former des coalitions contre les bourgeois pour la défense de leur salaire. Ils vont jusqu'à constituer des associations permanentes, trois petits points entre crochets. Parfois, les ouvriers triomphent, mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leur lutte est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs, trois petits points entre crochets. Cette organisation du prolétariat en classe, et donc en parti politique, est sans cesse détruite de nouveau par la concurrence que se font les ouvriers entre eux. Mais elle renaît toujours, et toujours plus forte, et plus ferme, plus puissante. Fermez les guillemets. Pour les militants d'aujourd'hui, pas un mot n'est à changer.